La gang du matin!
Voici le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès 5h30 sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca.
Dans la gang du matin, voici le gendre parfait.
Nous autres aussi, on parle des oliviers à matin. C'est avec toi, Pierre-François Legendre.
Ben c'est ça. Hier avait lieu le 24e. 24, quand même. Hey. Ça a commencé en 1999, cette affaire-là.
Ben oui, toi.
Les oliviers, donc, je me suis amusé en fin de semaine à regarder des extraits des premiers galas sur YouTube.
OK.
Et on a évolué comme société, mais le milieu de l'humour a changé. C'est terrible. Depuis l'époque où il y avait 8 humoristes mâles hétérosexuels dans le paysage, comme le disait hier Arnaud Soli et Virginie Fortin, dans un super sketch chanté, entre autres.
Ah oui,
Oui, puis la petite chorale, c'était vraiment une bonne idée de sketch. Là. Il incarnait deux humoristes là, des années 90, là, le parfait. Là,
culotte de cuir.
Culotte de cuir, la petite veste.
Un peu toxique qui attend les poules.
On peut plus rire de, on peut plus rire de rien. Moi, avant, je faisais 20 minutes, rien que je suis ma graine. Aussi. Bon, des trucs comme ça. Là. Les deux humoristes, en fait, c'est ça, ils regrettaient l'époque où ils pouvaient faire des jokes sur tout, puis qu'ils ne se cassaient pas le bessic plus qu'il faut. Si pour un humoriste, l'humour, c'est l'art de regarder la société à travers sa loupe et de grossir ce qu'il ou elle trouve drôle, ben, écoutons un extrait d'un sketch du gala de 2000 entre Rachid Badouri et Michel Bambara où ils étaient complètement deux inconnus et ils revendiquent plus de présence de la diversité ethnique dans le milieu de l'humour. Et voici comment ils s'y prennent.
Hé, Bamboula, t'es même pas capable de sacrer. Et quand ils chantent du poule piché, je vous jure, sur la vie de ma mère, ça sonne comme un chant vaudou.
Et le vendeur de tapis, sois poli, hein. Lui, il a autant de sang québécois qu'il y a de fromage dans le cheese whiz.
Face de quick, moi, je suis pour les Canadiens quand ils gagnent.
Ça de mousseline, moi, je suis contre quand ils perdent.
OK. Et
alors, on est là. C'est quand même fou.
Ils c'est en 2000, ça?
Oui. Et ils font juste lancer des insultes racistes. Ça, c'est il y a 23 ans. Ils ne demandent pas plus de diversité, là, en fait. Leur argument pour avoir une place dans le milieu de l'humour, c'est de faire croire qu'ils sont aussi Québécois que les Québécois de souche.
Hey, hein?
C'est fou. On alors qu'aujourd'hui, ben oui, puis tant mieux. Hein.
Ben oui.
Heureusement, parce que eux, c'était probablement leur réflexe de dire, ben si je suis Québécois puis je montre que je peux faire des jokes sur ma haie, ma headset, puis si je vais peut-être... Je vais peut-être fitter dans le paysage, alors que maintenant, on est comme, non, exploite ta saveur unique à toi. Ton père est algérien. Go, go, on en veut plus. Donne-nous-en, heureusement. Le gala de 2000 parlait aussi d'un vieux sujet qu'on n'entend plus du tout parler, la difficulté d'être une femme en humour. c'est ironique là, pour ceux qui ont vu encore.
Catherine Levac en parlait comme ça,
hier, évidemment.
Parce que les deux premières animations, c'était Les Dions.
Après
ça a pris tout ce temps-là. Là, avant qu'il y ait une femme seule qui anime.
22 ans d'animation masculine et on revient avec elle. Donc, un sketch du gala 2001 avec Martine Franck et deux autres femmes. Mais je sais pas c'est qui les filles. Honnêtement, parce que Lise Dion animait. Fait que là, tu voulais faire un sketch, il restait Martine Franck. Il n'y aurait peut-être plus Marie-Lise Pilote, mais elle devait être en train de se changer dans un personnage à l'arrière, je sais pas. Mais donc, il y a deux femmes, mais on écoute ce qu'elle avait à dire.
Non, mais ça a l'air que les gars qui rient des jokes de gars, là, c'est une forme d'homosexualité, ça.
Ça fait que les gars, là, faites de la place à l'humour des femmes. Parce que sinon, là, nous, les filles, on va s'unir, puis on va toutes se lever. Ouais! Non, la grande mince avec des gros totons, dans le fond, là, reste assise, OK? C'est assez difficile de même pour les travailleuses de l'humour à soir, hein?
C'est grave.
Hey!
OK!
Fait que c'est déjà assez dur, fait que si t'es cute, fais d'autres choses.
Hey, oui.
J'aurais pu continuer même pendant trois ans.
Mon Dieu, mais j'aurais jamais fait ce métier-là.
C'est vrai, t'es trop belle.
Surtout avec la belle grande jambe qu'elle avait hier dans le robe craqué.
Bref, le milieu de l'humour et les oliviers ont changé. Je regrette pas du tout les années 2000, évidemment, surtout avec ce qu'on vient d'entendre. Mais j'ai l'impression que dans le gala, là, OK, je suis vraiment pas dans le contenu, j'ai l'impression que ça se prenait un petit peu moins au sérieux, ces galas-là. Okay. Là, je sors, je suis plus dans le contenu du tout.
Mais
me semble qu'on sent beaucoup plus aujourd'hui la grosse business, la compétition. On dirait qu'à partir du moment où les producteurs ont commencé à utiliser la statuette là, pour, comme un outil de marketing, c'est devenu hyper sérieux et important d'en gagner un. Je me souviens pas de l'époque, je n'étais pas invité dans le gala là, en 2000, mais j'ai l'impression qu'il y a des faces longues. longue aujourd'hui. Fait comme, j'ai pas gagné mon Olivier. Comme tu le disais, Eve, faut pas le prendre personnel.
Pas du tout.
On dirait que des fois, tu peux croiser du monde et tu dis, pourquoi t'es triste? Tu viens de gagner un Olivier. Ouais, mais Pierre Hébert en a gagné deux. C'est comme, mais là, tu t'en sortiras pas, là.
Sentais-tu ça hier, peut-être, dans la salle, behind the scene, là? Y avait-tu comme une. Déception?
Moi, je l'ai pas senti, mais après, tu sais, je voyais des derrière de tête, là. J'avais pas, comme à TV, j'imagine qu'on, peut-être qu'on pouvait plus le sentir s'il y en a eu. Okay. Mais moi, j'ai pas vu de face longue.
Okay. Puis, Kate Levac disait en fin de semaine dans la presse, elle disait, saviez-vous qui a jamais gagné l'Olivier Découverte et même aucun Olivier de sa carrière? P.A. Méthode, Bierge.
Ah ouais,
c'est probablement le troisième meilleur vendeur d'étiquettes d'un show d'humour au Québec. Donc, c'est pas la fin du monde. Puis en plus, on se demande qui vote. Ben, c'est les boîtes de gérance qui inscrivent leurs artistes.
Ah,
et après ça, l'industrie vote. C'est qui l'industrie? Des gens qui travaillent dans le milieu et qui payent leurs cotisations à l'association professionnelle de l'industrie de l'humour. Et c'est qui les professionnels de l'industrie? C'est les boîtes de gérance. Donc, je simplifie, évidemment.
Mais plus t'as une grosse boîte, mettons.
Ben oui, c'est plus... ça. Puis, une fois que tu l'acceptes, tu dis, ben c'est comme ça, t'as titre. Fait que tu sais, tu peux pas te battre contre ça, mais acceptez-le. Prenez ça peut-être un peu moins au sérieux.
Ben, on savait pas tout ça.
Ben, je termine en citant Raymond DeVos, un grand humoriste français, qui exprime bien, pardon, ce qui est devenu le gala des Oliviers pour moi. Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter.
Oh. On ne connaissait pas ça de notre Pierre-François Legendre. Mais
un voyou!
Tu as été truand, manifestant.
Absolument, j'ai eu 20 ans hein, avec des idéaux dans le plafond, gang. Mais j'ai repensé à ça, en fait, parce que c'était une période de ma vie que j'avais complètement mis sous le tapis. Mais Donald Trump a prétendu samedi sur son réseau social Truth Social qu'il serait arrêté mardi le 21 mars. Donc aujourd'hui, là, on surveille ça, j'imagine, Ben?
Absolument,
oui.
On va voir.
Alors, pour des paiements obscurs qu'il aurait fait à Stormy Daniel pour acheter son silence à propos d'une relation sexuelle qu'il aurait eue avec elle. Et il pourrait être inculpé pour un délit de fausse déclaration comptable dans le but de dissimuler le paiement à Stephanie Clifford de son vrai nom.
Quelque chose pareil. Hey, je prends 20 secondes complément d'info. Paul Lutte nous a appris hier parce que là, ça se peut que ce soit monoté puis tout, mais c'est pas la première fois que ça arrive à un président des États-Unis. C'est arrivé genre en 1800 coq, puis c'est parce que le gars, il avait fait un excès de vitesse avec sa charrette. Je trouvais ça bon.
Il s'était fait menoter.
Oui!
Mais si jamais Trump allait en prison pour un délit comme ça, ça serait quand même fameux, là, après tout ce qu'il a fait, ou en fait tout ce qu'il a plané au-dessus de lui.
Ben oui.
Mais on se rappelle, hein, chez toi, Eve, qui disait hier que Al Capone a été arrêté, en fait, pour des contraventions non payées ou des affaires d'impôts.
C'est
ça.
Ouais.
C'est ça. Donc, en tout cas.
Pas moi, là, mais.
Prends le chapeau.
Mais, Donald Trump, en bon danger public qu'il est, il a incité ses partisans à manifester avec des slogans sur son réseau social, du genre reprenons notre nation, je suis là pour vous. Bon, tu sais, dans le même esprit un peu que le discours de janvier 2021, qui s'était terminé, on s'en rappelle, par une émeute et une prise d'assaut du Capitole.
Quelque chose.
Mais là, ça a l'air, j'ai lu que ses partisans sont plus frileux, là. Ils veulent pas créer un Capitole numéro 2, là, parce qu'il l'enrage encore plus. Mais ça prend une poignée d'irréductibles, tu sais, pour faire quelque chose de vraiment grave.
Ben oui.
Moi, je sais pas vous, mais moi, les images des fous furieux qui sont rentrés dans le Capitole, là, en scrapant tout, là, ça me procure un mélange de peur, de voir qu'on peut se rendre là, mais de fascination aussi.
Oui.
je trouve bien excitant. Moi, avoir été là, c'est sûr, j'aurais pas été game de rien faire, là, tu sais. Mais je pourrais être celui qui propose aux deux de quotient de dessiner une graine d'en face à Lincoln.
moi, je le fais pas, mais.
Moi, je suis pas game, là. Je serais là comme, mon Dieu, c'est pas correct ce qu'on arrête de faire là. Mais oui, mais arrêtez-les. Mais.
On dirait
que je veux être voyeur de ça quand même, là,
tu sais.
Je pense que c'est l'instinct animal qui ressort chez les manifestants qui me fascine. Comment, dans leur tête, ils se transforment en quelques heures en vikings assoiffés de sang et de vengeance.
Oui.
Tu sais, le génie avec un casse de poêle, là, avec des cornes, même devenu un symbole de l'émeute. Mais peut-être qu'il travaille chez Best Buy, ce gars-là.
Ça se peut être...
Le matin même de la meute, il a dit à son boss, moi je prends congé cet après-midi, il a peut-être vendu une garantie prolongée sur un set de laveuse sécheuse. Puis il y a ça en lui, c'était peu vrai, ça veut dire que c'est peut-être en nous.
C'est tout caché.
Selon la psychologue sociale Catherine Amiotte, pendant une émeute, c'est comme si les gens perdaient une partie de leur identité personnelle et il se passe un phénomène de désindividualisation.
L'intelligence de groupe, on est moins brillant en gang.
Complètement, exactement. Donc tu deviens anonyme et tu peux comme commencer à adopter des comportements antisociaux. Moi, j'ai déjà été pogné dans une émeute pendant le sommet des Amériques à Québec en 2001. J'étais sorti manifester, OK. Il n'y avait rien à faire que ça. Puis il faisait vraiment beau. La ville était barrée. Il faisait beau, exactement. J'étais un jeune artiste de 25 ans. J'avais des idéaux. J'étais contre, OK? Des affaires. J'étais contre ça, là.
T'as-tu peur d'être pogné dans le Vox Pop de pourquoi t'es là aujourd'hui? Je suis contre.
Le premier jour, je m'étais mis un gilet des Nordiques, des gants, puis un casque de hockey. Non, mais je me disais, ça va peut-être faire le tour du monde. C'est aussi bien montré qu'on était une ville de hockey. Puis j'étais parti avec mon bâton de hockey aussi dans le but de mettre une pancarte. Non à la Sléa, tu sais, bon. Là, Hawaï aux barricades. Et là, l'escouade anti-émeute, finalement, les barricades sont tombées. L'escouade anti-émeute chargeait, reculait pour faire reculer la foule. Ça commençait à être grave. Ça commençait à brasser. Ben, t'en sais quelque chose.
Oh, yes.
Et là, ça ressemblait à un champ de bataille. Tu sais, les canettes lacrymogènes qui commencent à revoler. Okay. C'est gros, ça. C'est une genre de boîte chunky, là, tu sais. À peu près.
Ouais.
Et là, les plus courageux allaient ramasser les canettes de gaz lacrymogène puis les relançaient. Et moi, à un moment donné, il en tombait une proche de moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Mel Gibson dans Braveheart. Je cours vers la canette, puis je snap en direction de l'oppresseur.
Avec ton hockey.
Le monde en fait « Yeah! » comme si je venais de scorer en prolongation. Un autre gars qui avait lui aussi un bâton de hockey commence à m'imiter. La foule nous encourage. C'était un mélange de Guy Lafleur puis de Che Guevara. Et à un moment donné, genre, ma quatrième canette, je courais, j'étais essoufflé. Je pissais des yeux à cause du gars. Là, j'ai vu un policier se mettre à genoux à terre et viser dans ma direction avec son fusil de balle en plastique. Et là, je me suis sauvé.
Je suis parti,
ça a été terminé. Le deuxième soir, écoute, là, je manque de temps, mais tu sais, ça a tellement grossi, cette émeute-là. J'avais vu, le moment où j'ai vu un gars sur un chariot élévateur, un genre de lift, passer à travers une porte vitrée, je me suis dit, OK, ça devient de moins en moins familial, comme émeute. J'ai couru, les canettes lacrymogènes tombaient, j'ai couru, je me suis réfugié dans un Subway à Trois-Rivières, je pense. Mais je me souviens que ça m'avait excité tout ça, l'espèce d'anarchie. Puis il y avait quelque chose de dangereux, faire comme OK, attention, parce que ça peut être en nous, puis on peut. L'effet de foule peut t'amener à quelque chose.
As-tu le goût de dropper les gants?
Ben, j'aurais pu! Mais avec ma gang, tu comprends? L'effet tribal. Fait que rappelez-vous, la prochaine fois que vous serez dans une foule et que votre instinct vous chuchote que ça pourrait mal virer, reprenez sur vous, mettez-vous la tête dans une chaudière d'eau froide, je sais pas, parce que dites-vous qu'une foule est plus imbécile que le plus imbécile d'entre elles.
Wow.
Alors, ne soyez pas cet imbécile.
Sauvez-vous pour aller manger un 6 pouces.
Dans la gang du matin, voici le gendre parfait.
Pas si parfait que ça. Un vandaliste.
Un quoi?
Un vandal. Un vandal. Qui fait du vandalisme.
Bon. Je vais prendre la POC.
Je t'adonne.
Des fois, quand je suis contrarié, effectivement, pour me calmer, je fais des affaires un petit peu étranges.
Okay.
Pas étranges, genre me tremper les orteils dans le beurre de pinot en guise de collation pour mon chien. Là. Non. Mais étranges quand même, OK? Tu sais, mettons, là, une journée où tout va mal. T'as renversé ton café, t'as oublié de mettre du déo, le garage t'appelle pour te dire que tes freins sont à 80%, fait que moi, en tout cas, j'embarquerai pas mes enfants là-dedans. T'as le done show, t'as toujours pas de déo. Des irritants, là, tu sais. Mais rendu le soir, s'il y a une petite goutte de trop dans le vase de la patience, j'explose à ma façon. Puis je dis vase, là, mais moi, c'est plus format piscine. Je suis patient. Ma blonde, t'es un shooter, OK? Mais, tu sais, la petite goutte, ça peut être pas, hein? Julien me prend les crottes de Chico, puis elle essaye de m'y rentrer dans les oreilles pendant que je joue. Là, je pourrais arriver dans le salon avec un entonnoir puis un baquette de crottes, remplir les oreilles de mon gars en criant, ici, on n'essaye pas, on réussit. Mais non. Je m'en retiens.
Chico, le cochon d'Inde.
Au lieu de fesser dans le mur avec le cochon d'Inde, j'ai une technique pour me calmer qui n'est pas répandue, on dirait.
Okay.
Je fais ce qu'on appelle du vandalisme écologique.
C'est quoi?
Exemple.
Qu'est-ce que tu nous as appris?
Au lieu de crier puis de casser une assiette, je pogne le plan plastique de couscous au canneberge qui est presque fini puis je le jette dans le vidange. De même. Fuck la récup.
Sans le laver.
Sans le laver, mais même pas dans le recyclage, dans les poubelles.
Demain.
Direction dépotoir, petit contenant Fontaine Santé. I don't give a shit. Venez me chercher, j'habite à Varennes. Je résisterai pas.
En pleine face, ça, la planète.
Oui.
Ça
me calme pour plusieurs jours. Les deux niaiseux dans la cave qui comprennent pas que papa a des grosses semaines, là. Tain, votre planète. Vous arrangerez.
C'est ça, ta vengeance.
Oui.
Vous
arrangerez. Ça me ramène, moi, faire
comprends.
Ça. Une niaiserie de plus, Elliot. Une niaiserie de plus, puis je mets la pleure de banane dans poubelle. Parce que là, le compost, c'est comme votre attitude, c'est de la marde.
Mais quand tu te ramènes, vas-tu rechercher le diplôme en poubelle ou...
Ça m'est déjà arrivé d'aller chercher des boîtes Saint-Hubert en poubelle. Entre autres parce qu'il restait un petit pain rond. Je vous le jure, là, une chance, des fois, je suis pas tout seul parce que je pourrais commettre l'irréparable.
Ah, ouais,
hein. Genre deux batteries de EA d'un poubelle. Ça, je sais, hey, ça, faut pas.
Ça?
Mais ça, là.
Ça traverse.
C'est comme mon yoga show, en fait.
Mais c'est satisfaisant de même.
Je vous jure.
Hein?
Je vous jure, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je fais des affaires aux vidanges qu'il faut pas. C'est comme une thérapie. Tu sais, sauf qu'au lieu de vider mon sac, je le remplis.
Ouais.
Mettons, je pars là, pour tourner une affaire à une émission de variété samedi matin. Je sais pas pourquoi j'ai accepté ça. J'ai ma housse de linge parce qu'ils veulent avoir le choix entre un kit gris, noir ou plus celui noir et gris. Là, c'est moi qui commence à être gris. Là.
Ouais, ouais.
Mon voisin me dit bon voyage. Je dis non, je m'en vais juste au tricheur. Okay. J'embarque ça à 130. J'embarque ça à 132, j'ai oublié mon téléphone.
Ah,
je reviens à la maison, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour me dépomper? Cool. Laisse tourner le char. Je prends mon temps. Char tourne, là!
Ah ouais,
cinq
ouais.
minutes en dedans, moi, là, ouais. chercher mon téléphone.
Ah ouais.
Ça a l'air stupide, mais il faut comprendre que je suis une personne qui s'est adaptée avec mon temps.
Ben oui,
oui.
Toute ma jeunesse puis mon adolescence, moi, j'ai jeté tout ce qui servait plus, là, tu sais.
Ouais.
Mais entre 14 et 17 ans, pourtant, j'aurais pu remplir un bac de compost par semaine, juste en Kleenex dans ma chambre, là. Je viens de cette époque-là, OK?
Oui.
Donc, je suis comme un animal apprivoisé, tu comprends?
Domestiqué.
Domestiqué, c'est le bon terme. C'est ça que j'aurais dû dire. J'ai été dressé à recycler, composté. Puis je suis content de faire le beau, là, puis le bon citoyen.
Oui.
Mais si tu me provoques ou tu me blesses, l'animal en moi, check-moi bien en juillet, mettre la clim à 20 puis partir 24 heures. Je suis capable.
T'es un truand.
Je suis capable, vous me menotterez. Là.
Vous me menotterez. Vous me menotterez.
J'exagère un peu, mais je pense c'est l'impression de transgresser les règles qui me fait du bien.
Ouais.
Tu sais, mon père a été élevé par des curés. Hein?
Okay. Fait
que, moi, les fois où je l'ai entendu sacré, l'heure était grave.
Ah ouais.
Genre la fois qu'il y a deux valises qui ont décroché du toit sur l'autoroute en direction d'Old Orchard. Ouais, cet été-là, là, c'est facile. Là, toute la semaine, je suis en bobette sur la plage avec une blouse à ma mère sur toutes les diapositives.
Il n'y a pas viré de bord. Ben non, j'avoue que tu viens pas de bord.
Ben non. On n'a pas viré de bord, on pouvait pas.
Les mais belles vacances.
Quand c'est arrivé, ça, puis j'ai vu ses grands yeux ronds dans le rétroviseur, puis il a lâché un tabarnak. Ben senti, ça lui a fait du bien.
Oui.
Lui, c'était son pot de plastique, tu comprends?
Voilà.
Il savait qu'il pouvait pas faire ça. C'est comme s'il se disait, ah ouais, hein, je me force à être un père exemplaire, un mari attentionné, puis la vie me chie dessus de même. Ben, je vais sacrer. Alors aujourd'hui, les écologistes ont remplacé les curés.
Ouais.
Et moi, je suis pas un athée de cette religion-là. Non, j'y adhère.
Oui.
Mais pardonne-moi, Greta, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi rien qu'une parole de trop, puis tu vas voir, est-ce le Tupperware qui fait mal avec un reste de la zinc dedans, il va finir d'un conteneur. Amen.
Dans la gang du matin, voici le gendre parfait.
Je suis venu ses nerfs.
Oui.
Mon accent gaspésien était pas prêt, moi, là.
Ah, c'était pas ses nerfs, moi, je fais fuck, mais c'est
pas Pierre-François, tu rends hommage à quelqu'un ce matin.
Effectivement, parce que le 23 mars 1978, ma vie changeait bout pour bout.
OK.
Oui, il y a 45 ans aujourd'hui, à l'âge de 3 ans et 10 mois, je perdais le titre de la chose la plus mignonne et adorable sur Terre au profit d'un gros bébé lait. Mon petit frère, Jean-Gabriel.
Oh, wow.
Oui, Jean-Gabriel. Oui, après le prénom Pierre-François, mes parents se sont dit qu'ils pouvaient pousser le concept du nom composé encore un petit peu plus loin. Chance qu'ils n'ont pas eu un troisième. Ça aurait été quoi?
Hein?
Ça aurait été quoi un troisième? Alphée Eude? Barthélémy Yann? Rémi Pierre? Arc?
Alphée Eude!
Ben, c'est très 2023, moi.
Alphée Eude. S'il y en a un qui nous écoute, appelle-nous.
J'ai gagné une tasse!
Oui, effectivement, le 23 mars, 1978, un jeudi saint. Oui.
Ah?
Je me suis fait voler ma place d'enfant chéri par un gros rôti de porc bleu. Là, j'ai l'air grossophobe du poupon, là, mais il pesait, tenez-vous bien, 10 livres et 12 onces.
Oh, le gros,
ça va? Le gros bébé? Le genre de bébé qui mâche le cordon ombilical parce qu'il a encore faim?
Oh.
Un affamé.
C'est gros, là.
Oui, naturel. Il est sorti de là en disant « Donnez-moi un tâton, j'ai faim.
Oh! »
Le gros dancing baby, oui.
Murray n'a pas gagné un trophée pour ça?
Ben exactement. On dirait que t'es par-dessus mon épaule.
Ben,
l'hôpital,
là,
il a donné un trophée. Ma mère, je vous jure. Oui, le plus gros bébé de l'année, quelque chose de même. Le docteur a dit à ma mère, entre deux pofs de Players, à la grosseur qu'il y a, lui, vous l'auriez pas perdu dans le taxi, madame. Vrai de vrai. Mon père m'a déjà raconté qu'ils se sont mis à deux pour le sortir.
Mais okay? Voyons.
Oui, oui, le gynéco tirait par en dessous des épaules, là, pendant que l'anesthésiste poussait sur le ventre à ma mère. Oh. Fait que demandez-vous pas pourquoi il est parti de la maison à 26 ans.
Ben oui.
Il est né trois jours avant Pâques. Ouais. Facile à retenir parce que j'ai du chocolat dans la face sur toutes les photos de cette journée-là. Remarquez, c'était peut-être du méconium aussi, je sais pas. Vous googlerez.
Oui, c'est ça, là.
Ceux qui n'ont pas d'enfants. Je me rappelle que... par contre, j'étais pas content de le voir arriver.
C'est sûr.
Okay? C'est sûr, j'ai souhaité que ce soit une fille. Je voulais pas perdre mon statut de petit prince. Ça chamboulait mes plans, c'est ça, là. Pas prévu splitter l'héritage, moi. Il y a une série de trois photos le lendemain de sa naissance. Okay. Okay? C'est très drôle, ça. C'est... Première photo, moi avec lui dans mes bras. Deuxième photo, moi qui y mets un F. Cadbury dans la bouche. Troisième photo, un peu flou, moi qui se fais ramasser par le bras pendant qu'un adulte sauve mon frère. Finalement, il est pas allergique au chocolat.
Oh.
Fuck! j'avais l'air très heureux, en fait, même sur les photos. Ouais. Là, pour un gars qui vient de passer deuxième dans le cœur de ses parents, je vivais bien ça. Je fais des blagues. Il y a une photo où je fais le clown, tu sais, avec un panier de Pâques sur la tête.
Oh, t'es fin!
Ouais, une autre avec des oreilles de lapin puis les dents sorties. Puis je suis là à l'arrière de tout le monde. J'ai l'air de crier « Regardez-moi! Regardez-moi! J'existe! » Tout le monde regarde l'archange Jean-Gabriel. À deux jours de vie, il n'avait pas encore son surnom. Aujourd'hui, tout le monde l'appelle Guilou.
Guilou?
Oui, Guilou. Ah. Tout le monde, vraiment tout le monde, même à job. Genre, comme Guylaine Tremblay aussi, qui a le même surnom, sauf qu'elle, elle s'appelle Guylaine. Lui, il ne s'appelle pas Guylaine. Une douce revanche pour moi. Bon, là, j'ai l'air de l'haïr, là, mais non, c'est pas vrai, j'ai fini par m'attacher. Ben. C'est quelque chose de très valorisant quand même, être grand frère. Hein. Autant j'étais protecteur avec lui, autant j'y en ai fait baver. Dès qu'il a appris à se tenir debout, je l'ai mis d'un goal, moi.
Ouais.
Il en a mangé de la poque en masse. Là. Je l'ai aussi peut-être déjà pitché dans la piscine tout habillé pour faire rire mes amis 6 ou 7 fois par été. Mais on n'a jamais arrêté de se dire qu'on s'aimait puis qu'on serait toujours là l'un pour l'autre. Pis j'aurais aimé ça lui dire ce matin. Il habite Québec, il nous écoute souvent en rattrapage, il me dit que vous aimez beaucoup les filles. Ce matin, j'aurais voulu qu'on l'appelle en onde.
Ben oui, on l'appelle.
Mais c'est ça. J'ai passé par sa femme, elle me dit « Oublie ça, il se lève vers 7h30. » Gros lâche! Fait que je l'ai texté directement. J'ai dit « Hey, je peux-tu t'appeler en onde demain vers 6h30? » Non, il me répond « Aucune chance que je réponde. En plus, j'ai un party demain soir, faut que je dorme. » Je dis « Ah, come on, ça ferait un bon moment de radio, Guilou. » Il dit « Oui, ça ferait un Christy de bon moment parce que je serais en esti si tu me réveillais ce soir-là. » Fait que, ben, comme j'avais prévu que ça allait finir demain mon sujet, j'ai demandé à Steph,
notre
scripteur, Steph, Allô? Juste de peut-être interpréter mon frère vu que le mien ne veut pas m'aider.
Pas de trouble.
Dans la peau de Guilou, alors, Stéphane Gouin.
C'est ça.
Troisième ligne, photo, poteau, château Frontenac.
Oh boy! Okay. Dans le rôle du personnage de Québec.
C'est bon.
OK, fait que mettons...
Tadakone, Québec.
Alors,
salut, frère!
Salut, comment ça va?
Ah, super bien. Travail de bonne heure, par exemple.
Oui, il y a bien du trafic, j'imagine. Travail à 8h.
Ah ouais.
Tu te lèves à 7h30.
Moi, j'aime bien.
Tu te lèves à 7h30,
faut que ça. T'es dans la peau du gars de Québec, toi? Hein?
Photo.
Oui. Bon, fait que des nouvelles de maman?
Elle va bien, elle va bien.
Bon, ben bonne fête. Salut!
Hey, merci!
Bye! Et voilà!
Oh, wow.
Hey, vous êtes proche, hein?
Rouge.
Bon, on n'est pas déçus d'avoir pas parlé à Guilou, finalement. Mais plus de revanche et de rentrer.
Il dort, là, pouvez-vous croire? Du monde qui dort, Master.
Je dors pas, je suis là.
Dans la gang du matin, voici le gendre parfait.
Je travaille avec un acteur, Pierre-François Legendre, puis j'adore ça parce qu'on a le droit au behind the scenes.
Ben, mes petits behind the scenes bien personnels, mais j'imagine que toi aussi, Jean-René, tu vas pouvoir intervenir là-dedans parce que, je le disais tout à l'heure pendant la chanson, créer, c'est choisir.
Oui.
Moi, je me suis fait dire ça tout mon conservatoire, que ce soit une émotion, il va falloir que tu choisisses. Tu ne peux pas rester flou, mais c'est ça aussi dans un montage. Choisis. Créer, c'est choisir. Alors, quand Xavier Dolan a fini le montage du film The Death and Life of John F. Donovan en 2018, et qu'il a réalisé que son film faisait 4 heures, ben, en plus de ne pas comporter beaucoup d'éléments de ce qu'on pourrait appeler un blockbuster, il a été était obligé de faire des choix déchirants, comme, entre autres, couper le personnage de l'actrice oscarisée Jessica Chastain.
C'est Chastain? Vrai. Chastain? Oui, la belle rousse.
Oui, ça, mais... ça, c'est quelque chose, là, couper le personnage du début à la fin du film.
Exact. Pas couper des répliques ou même une scène complète. Là. Couper genre « Viens pas à la première, Jess.
» T'es plus dans tout le film.
Ça sert comme à rien. C'est drôle, parce que sur Wikipédia, dans son CV, c'est écrit son film, mais coupé au montage.
Ah oui?
Oui,
ah.
Oui, en tout cas.
Ben. Mais c'est pas faux de dire qu'elle a tourné
non.
Dans ça. Ce film-là.
Elle a été payée, tu sais. Puis tu sais, Xavier Dolan me semble être un jeune homme avec une assez bonne confiance en lui. Là.
Oui.
Mais quand même, tu sais, quand t'as vu le numéro 514 arriver, s'afficher son répondeur, son afficheur, là, elle a dû se faire « Oh, Xavier, how are you? Can't wait to see your movie! » Puis elle a dû, lui, il a dû faire « Oui, ben oui.
I have to tell you something, Jess. »
Comment je te dirais bien ça? Ça devait pas être un bon moment pour lui, on s'entend. T'sais, elle a été payée, comme je disais, c'est pas qu'elle manque d'exposure, mais c'est dur de pas le prendre personnel. Elle a servi au Tonight Show dire à Jimmy Fallon « Ah, ben là, oui, présentement, je suis en plein tournage avec un jeune réalisateur extraordinaire, nanana, blavé, pouf! Disparu! »
Je n'existe
la
plus.
La magie du cinéma. Fait qu'elle a dit que ça la dérangeait pas, tu sais, qu'elle comprenait la décision artistique, tout ça, mais c'est pas vrai.
Ah non, ben, en tant qu'acteur qui a
vous donner un petit secret, là. Si un jour, vous entendez un acteur ou une actrice dire que ça le dérange pas, que son rôle ait perdu de l'importance après l'étape du montant, il vous ment.
C'est ça.
Ah, oui.
Il vous ment quand parce que tous les acteurs, j'ai mis en caractère gras ici dans mon texte, là, tous les acteurs et les actrices sont des guidounes.
ça, je suis d'accord.
Oui, qui veulent le plus de temps d'écran possible, OK? Puis, by the way, si je pouvais avoir une scène au ralenti dans un de tes films, Xavier, je t'en serais éternellement reconnaissant. Mais bon, moi, dans le film Cabotin, j'avais une scène qui, okay, dans un pédalo. Pas simple à tourner, là.
Okay.
Avec une actrice, puis la scène finissait par une déclaration d'amour, puis un gros French.
Mmh.
Elle embarquait sur moi dans le pédalo. Mmh. Écoute, c'était compliqué, là. Puis le réal nous criait de la plage, là. Un petit peu plus, on la refait, mais un petit peu plus de passion, plus de fougue, OK, let's go, on la refait, je suis désolé, mais. Hey, écoute, elle s'est scrappée genoux. Mmh. Moi, j'étais un petit peu mal à l'aise, ça a duré comme une heure, j'étais mal à l'aise avec le niveau de fougue à atteindre, là, tu sais.
OK.
Mais finalement, bon, ben, personne de mort, ça, on le fait, OK, bravo. Arrive le soir de la première, la scène de la pédalo est bonne, est super bonne. Puis là, je prends la main de ma femme comme à chaque fois que je sais que je vais frencher une fille. Elle est grande,
ah ouais,
ouais,
là,
oui, je fais ça.
Okay.
Donc, 3, 2, 1. Oh! Ils ont coupé le French. Ils ont coupé le bout où on a failli se tuer, se noyer, où on s'est écorché complètement. Mais là,
pas de genou rouge.
Pas de genou rouge. C'est complètement coupé. Mais là, ma femme, elle ne sait pas que j'ai Frenché avec de la fougue là, au tournage.
Pourquoi tu me tiens à la main?
Ben, c'est ça. Ben, j'avais comme l'impression d'être infidèle.
Ah.
Parce qu'elle, elle ne veut pas savoir quand je vais tourner une scène, mettons, puis ça se peut que j'ai des rapprochements.
Okay.
Là. Fait que là, elle, ça n'existe pas. Fait que là, je suis comme, maintenant, c'est un secret, là, sinon, il faut que je dise.
Ah, je comprends. T'as-tu eu la discussion?
Bien, tout de suite après, j'ai dit, ah, oh, ben oui, pas grave. OK, tant mieux. Parfait. Tu sais, un film qui fasse 1h40, 1h53, ça va, mais tu sais, en télé, c'est plus. C'est plus compliqué parce qu'il y a des formats à respecter. Écoute, la confrérie, saison 1, on s'en est pas rendu compte, le réalisateur s'en est pas rendu compte, mais ça avançait, puis il y avait tellement de retard qu'ils ont été obligés de rajouter un épisode.
Au complet.
Au complet, parce que sinon, ça rentrait pas. Donc là, tu vas voir les boss, tu dis. Tu sais que c'était à 12, mais on irait à 13.
Vous ferait un bonus.
Oui, oui, c'est ça, mais là, le bonus, il y a des frais associés à ça. T'sais, bon.
Okay.
Et quand j'ai été invité, je termine avec ça, à l'émission Première fois. L'équipe avait contacté mon bon ami à moi du secondaire, qui était rendu, qui vivait au Mexique. Et il avait raconté des anecdotes de comment ça se passait les premières fois que je sortais d'un bar. Des anecdotes de shooter, là, OK? Puis il dit, voulez-vous que je fasse une surprise puis que je débarque sur le plateau? Puis là, la prod a dit, ouais, mais là, billet d'avion, deux nuits d'hôtel. Puis Olivier a proposé de faire le voyage à ses frais. Il a dit, gars, pour mon ami, là, puis dire coucou à mes parents, gars, je suis game de le faire, je débarque. Il est super généreux. Mais moi, je savais que, dans le fond, il y avait des jumeaux d'un an et demi à cette époque-là, puis il cherchait juste une raison de sacrer son camp, mais bon. OK, il fait l'émission, je suis ému de le voir, blablabla, trois mois plus tard. L'émission est diffusée. 100% du bout d'Olivier a été coupé. On le voit juste à la fin pendant le générique, les remerciements de Véro en train de taper des mains. Tout fier, genre, je fais de la télé, moi. Il était déçu, mais garde, Olivier, console-toi. Même Harrison Ford a été coupé complètement du film E.T. l'extraterrestre. Fait que, prends les pas personnels.
Wow, je savais pas. Hein, merci. Bacon. J'adore tout ce que je viens d'entendre.
Tu vois, hein?
Merci beaucoup.
Tu savais pas pour Harrison Ford?
Non, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des tis?
Non, il faisait le directeur d'école du petit. Qu'il convoquait à un moment donné, puis Harrison Ford, pas Harrison Ford, mais Spielberg a dit, je veux presque pas d'adultes, un minimum d'adultes dans mon film. Je veux que des enfants.
Tout ça, tu nous feras une phase 2 à un moment donné.
Vous écoutez la gang du matin. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en semaine dès 5h30. Le matin, on est tous sur la même fréquence. Rouge.